Lydie Blaiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier votre premier ouvrage, La Maison de Londres, pour les éditions du Petit Caveau. Vous habitez l'agglomération de Cherbourg depuis toujours. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ?
Eh bien, disons qu'au départ, je n'y pensais pas du tout. D'ailleurs, mes études n'étaient pas vraiment orientées là-dessus, puisque j'ai une formation de secrétaire. Ensuite, je me suis dirigée vers l'informatique. Donc, non, c'est mon mari qui m'a poussée à écrire, parce qu'on donc on jouait beaucoup aux jeux de rôle. J'étais toujours maître de jeu, donc j'avais l'habitude d'inventer des histoires. Et il m'a dit un jour, pourquoi tu les mets pas par écrit ? Donc, c'est ce que j'ai fait.
Qu'est-ce que vous avez écrit ?
Donc, j'ai commencé par écrire des nouvelles en participant à des concours. Ensuite, j'ai voulu directement attaquer les romans parce que les nouvelles n'étaient pas un format qui me convenait. Donc, j'ai commencé à écrire un roman de fantasy qui n'a jamais été édité, puis un roman de science-fiction qui va, lui, bientôt être édité.
Parce que dès au départ, quand vous avez commencé à mettre sur le papier, vous aviez l'intention d'être édité.
Oui, je trouvais dommage d'écrire uniquement pour moi. Mon entourage n'étant pas très branché lecture.
Vouloir être édité, c'est une chose. L'être, c'en est une autre. Alors, quel a été votre parcours pour arriver à ce que vous voyez dans une librairie, La Maison de Londres ?
Ça a été très difficile puisque donc les grands éditeurs n'étaient pas du tout intéressés. C'est très difficile de se faire éditer par eux quand on n'est pas connu, quand c'est le premier ouvrage. Donc je me suis adressée aux petits éditeurs et au final, c'est en publiant des extraits de La Maison de Londres sur des forums que j'ai été remarquée par un petit éditeur, donc le Petit Caveau, qui venait tout juste de se monter, qui est spécialisé dans la littérature vampirique. Et donc, qui m'a envoyé un email en me demandant l'intégralité du manuscrit pour pouvoir le lire et le soumettre au comité de lecture.
Mais alors, le paradoxe, c'est d'entrer dans une série de vampires, qui est une littérature particulière, et de la qualifier pour adolescents. Comment cela se fait-il ?
En fait, moi, je n'avais pas eu l'impression d'écrire quelque chose pour adolescents. La seule chose, c'est que je ne voulais pas écrire quelque chose de sanguinolent, de glauque, de sombre, donc ce qui correspond beaucoup aux vampires. Je ne voulais pas des monstres, je voulais des êtres humains qui se trouvaient devant une problématique particulière et donc qui agissaient en conséquence avec ce problème, vivre éternellement, être toujours là, évoluer avec la civilisation, mais devoir y être intégré, donc gagner de l'argent, avoir une vie sociale, avoir une vie familiale pour ceux qui le voulaient. Donc c'était très particulier et à partir de là, les lecteurs se sont dit « mais c'est ouvert à un large public ».
Comment êtes-vous passé de l'idée d'écrire à l'idée d'écrire sur les vampires ?
Donc j'ai commencé tout d'abord par un roman qui n'avait rien à voir effectivement avec les vampires puisqu'il s'agissait de science-fiction. Et durant ma période où j'ai joué beaucoup aux jeux de rôle, il y en avait un qui s'appelait Dracula, donc où les joueurs incarnaient des vampires. Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire sur le thème des vampires avec des personnages hauts en couleur et effectivement très différents du vampire traditionnel.
Alors, c'est quoi un vampire pour vous ?
Pour moi, un vampire, c'est une créature maudite. C'est un humain qui a subi une malédiction qu'il n'a pas forcément désirée, forcément. Donc un vampire, c'est quelqu'un qui n'est plus adapté à la vie normale et qui va lutter pour conserver une certaine vie et rester, conserver un lien avec le monde des vivants.
Mais alors, comment est-ce que ça se manifeste dans la quotidienneté des choses ?
Techniquement, puisqu'il a été déclaré mort, un vampire ne devrait plus pouvoir travailler, gagner sa vie, avoir une vie sociale, aller dans les bals, dans les bars, il devrait être très limité. Dans beaucoup d'ouvrages ou de films, ce n'est pas le cas. Et moi, j'ai voulu rendre justement cette difficulté de la vie, illustrer cette difficulté, rester avec les vivants.
Mais d'une manière générale, le vampire est associé dans l'esprit de beaucoup de gens avec le sanguinolent, etc. Pourtant, ce n'est pas ce qui est transcrit dans votre ouvrage.
Ça ne m'intéresse pas du tout de faire de la violence. Le vampire est aussi beaucoup associé au sexe, au mal, au diable. Moi, je n'adhère pas à cette idée sur le vampire. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui a été maudit et qui essaye de faire avec.
Mais qu'est-ce que vous entendez par maudit ?
Vivre éternellement, pour moi, c'est être maudit. On ne peut pas rêver de vivre éternellement. C'est pas possible. Voir les autres mourir, voir les autres vieillir, tomber malade, voir ses proches décéder, ce n'est pas une vie.
La manière de vous présenter vos vampires n'est pas dramatique. Il y a une part d'humour. Comment est-ce que vous la percevez ?
Je ne voulais pas non plus faire quelque chose de trop larmoyant. Ce n'est pas l'objectif. Pour moi, ce n'est pas l'objectif d'un roman que de faire pleurer le lecteur, forcément. Je donne effectivement un aperçu du drame que vivent les personnages, tout en y mettant de l'humour et d'autres sentiments, puisque pour moi, ce sont toujours des êtres humains qui conservent les sentiments qu'ils possédaient de leur vivant.
Ça vous permet d'envisager une liberté par rapport à ce qu'est la réalité quotidienne.
Oui, ça me donne une liberté totale, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse.
Mais qu'est-ce qui vous attire, justement, dans ces êtres ?
Ce qui m'attire, c'est les problèmes que forcément un état tel que celui-ci provoque, le fait de devoir continuer à vivre en étant déclaré mort.
Exemple concret, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés, ces vampires ?
Forcément, si on veut être réaliste, ils sont confrontés à des problèmes très pratiques comme gagner de l'argent, se loger ou même se nourrir, puisque boire le sang d'autres humains provoque forcément tout un tas de problèmes avec les autorités, par exemple.
Mais dans votre roman, ça n'apparaît que très discrètement évoqué, et en aucun cas il n'y a d'exemple ou de faits concrets.
Oui, effectivement, moi je ne suis pas très portée sur la violence, et d'ailleurs ça n'a aucun intérêt dans les romans, même de vampires. Pour moi, effectivement, ils doivent se nourrir, mais c'est une contrainte. Donc forcément, je ne vois pas l'intérêt de la développer de manière à décrire le meurtre d'une personne ou même la manière dont ils vont lui pomper son sang. Ce n'est pas intéressant.
Mais alors, comment, par l'addition d'un certain nombre de descriptions d'éléments, vous arrivez à évoquer la chose ?
Eh bien, en fonction du personnage, du caractère que je lui ai donné, je le mets dans une situation où le lecteur va comprendre qu'il va se nourrir du sang d'une personne. Par exemple, dans mon roman, il y a un personnage qui est très bagarreur. Donc quand il va dans un bar et provoque une bagarre, on sait, on devine l'objectif qu'il a derrière la tête. Ce n'est pas la peine que je décrive l'acte, le lecteur va comprendre.
En Normandie, sur RCF Calvados Manche.
Alors, La Maison de Londres, c'est quoi comme histoire ?
La Maison de Londres est un roman de vampires, donc qui se passe en Angleterre en 1895. Les vampires sont organisés donc en clans, qu'on appelle maisons. Donc il y a la Maison de Londres et la Maison de Cardiff, qui sont cités dans le roman, parce qu'ils sont adversaires. Donc les trois héros sont membres de la Maison de Londres. Ils sont chargés de l'éducation d'un quatrième vampire qui est une véritable calamité et qui va provoquer par sa maladresse, plus que par sa méchanceté, une guerre ouverte avec la maison de Cardiff qui va obliger les trois héros à partir en campagne pour arrêter cette guerre, pour trouver une solution pour mettre fin à cette guerre qui ferait de très nombreuses victimes dans les deux camps.
Mais en quoi consiste cette guerre ?
Cette guerre est typiquement une guerre de territoire. Les vampires sont comme les humains, ils aiment à s'étendre, et donc la maison de Cardiff veut tout simplement l'Angleterre pour elle toute seule.
Comment se manifestent les comportements de votre héros calamiteux, comme vous le qualifiez ?
Donc c'est effectivement quelqu'un de très maladroit, mais il est aussi un peu bête, sournois. Et lui, si au départ le vampirisme lui paraît être aussi une malédiction, il finit par décider de profiter de la situation, profiter de ses pouvoirs pour prendre le pendant sur les autres, pour dominer les autres, chose qu'il n'a jamais réussi à faire de son vivant.
À première vue, on a l'impression qu'il n'y a que des hommes dans votre roman.
Non, pas tout à fait. Les héros sont effectivement des hommes. Les trois héros principaux sont des hommes. Mais il y a aussi une femme, donc Anne et Clarcy Hyde, qui est la fiancée de l'un des héros. Il y a aussi la petite Marie, qui est la petite fille d'un autre héros, qui me permet en fait de parler du côté affectif des vampires, de leur relation avec les autres, de leur relation aussi avec ce qui fut leur famille, et qu'ils ont un peu perdu à leur mort.
Mais une fois qu'on est mort, mais qu'on existe encore, comment peut-on encore être amoureux ?
C'est toute la difficulté, c'est aussi une manière différente de traiter les vampires. Pour moi, un vampire est toujours un humain. Il a toujours des sentiments, et c'est vrai que dans certains romans ou certains films, ce n'est pas forcément évident, ce sont des créatures malfaisantes, qui aiment dominer, qui sont cruelles. Pour moi, un vampire, il a toujours ses sentiments qu'il avait avant. Donc si dans sa vie, il a été honnête, gentil, il le sera toujours. Et s'il a pu être amoureux étant vivant, il le peut toujours étant mort.
Quand vous dites que vos héros sont toujours des humains, il n'empêche qu'ils se confrontent à des réalités qui font qu'ils voient qu'ils ne sont plus complètement des humains. Comment retranscrivez-vous cette réalité ?
C'est justement l'intérêt, je dirais, du roman, et c'est d'ailleurs ce qui me pousse à écrire ce genre d'histoire, c'est qu'ils sont confrontés justement aux difficultés de leur état. Ils s'en rendent compte par des phénomènes très, très pratiques, l'existence d'une famille, d'une épouse, d'une profession qu'ils ne peuvent plus accomplir puisqu'ils sont morts, d'une situation sociale qu'ils ont perdue, d'une famille, du nom de leur famille qu'ils ne peuvent plus porter puisqu'ils sont déclarés morts. C'est tout cet ensemble qui constitue le nœud dramatique de l'histoire.
Et dans ce contexte, Marie apporte cet élément de jeunesse dans le roman.
Oui, en effet, elle est la petite fille de l'un des héros, donc elle se retrouve orpheline. Et son grand-père veut l'adopter, bien qu'il soit vampire, et donc normalement il ne puisse pas.
Et surtout qu'il soit mort.
Oui, il est mort, donc effectivement normalement il ne peut pas. Donc il s'attache à effectivement vouloir l'adopter, vouloir la garder auprès de lui, ce qui lui donne un aspect moins bourru. Et donc d'ailleurs ça qui aide le lecteur à voir le vampire comme un être humain à part entière.
Être humain à part entière, mais aussi différent, puisque ce n'est plus un humain.
Oui, forcément. Déjà, il doit se nourrir de sang humain pour pouvoir survivre, mais aussi les vampires ont des pouvoirs donc qui leur permettent de faire un certain nombre de choses qu'aucun humain ne peut faire.
Par exemple ?
Par exemple, se transformer en brume, prendre l'aspect d'un animal, ou même dominer l'esprit d'un autre humain.
On pourrait effectivement imaginer, à partir de là, une histoire sanguinolente et où il se passerait des tas de choses. Mais alors, quelle différence fondamentale y a-t-il entre l'humain et le vampire ?
Le vampire est immortel, l'humain ne l'est pas.
Est-ce que vous entrez dans des théories philosophiques de la transhumanité, de la post-humanité ?
Non, pas du tout.
Et alors, qu'est-ce qui vous attire par rapport au vampire ?
Eh bien, ce qui m'attire surtout, c'est de pouvoir raconter des histoires sur plusieurs époques. Par exemple, mes trois héros, je peux très bien les mener jusqu'à la prohibition aux États-Unis si ça me fait plaisir. Donc c'est cet aspect-là qui me plaît beaucoup.
C'est-à-dire c'est un autre lieu de récit que simplement la stricte historicité.
Tout à fait, je peux les conduire à travers les âges, raconter ce qui va leur arriver, comment ils vont vieillir, entre guillemets, comment ils vont appréhender la modernité, alors qu'ils sont issus d'une époque qui ne l'est pas, comment ils vont découvrir l'industrialisation, les téléphones portables, je peux les mener aussi loin que je le veux.
Ce qui fait que c'est très habile parce que ça vous permet d'écrire une série.
Tout à fait, je peux en écrire autant que je veux, c'est l'intérêt.
L'un de vos personnages se trouve à recueillir sa petite fille après le décès de ses grands-parents.
La ferme d'Arthur était un ensemble de très belles bâtisses en pierre, rénovées par ses soins. Elle était constituée de deux grands corps de logis, d'une dépendance et d'écuries. Le tout se trouvait au milieu d'un gigantesque parc boisé où de nombreux animaux évoluaient en semi-liberté. Les deux hommes pénétrèrent dans le plus grand bâtiment, qui abritait les lieux de vie communs, et trouvèrent Walter Carson tranquillement occupé à ramoner l'imposante cheminée. Il s'interrompit à l'arrivée de l'étrange duo et son regard glissa aussitôt vers la petite fille, toujours assoupie. Carson, garçon de ferme un peu timide, était un gaillard presque aussi grand que son patron, mais doté d'une carrure moins colossale. Il était assez jeune, plutôt mignon, et sa tignasse blonde avait la fâcheuse habitude de stocker en quasi-permanence des brins de paille à la couleur similaire. Il travaillait pour Arthur depuis bientôt 8 ans, et il était son servant, incapable de lui désobéir en quoi que ce soit, et attaché à son esprit pour le restant de ses jours. En réalité, il était beaucoup plus que cela, un véritable ami, et Arthur le traitait depuis longtemps comme tel. Walter s'approcha et observa Marie un moment. « Elle est drôlement jolie. » « Tout à fait d'accord. Je vais la réveiller. Tu n'oublieras rien ?»« Non, n'ayez crainte. » Lorsque la petite fille ouvrit les yeux, il rencontra pour la seconde fois une parfaite réplique du regard de son fils qu'il trouva des plus douloureuses. Devant Miss Andrews, Arthur ne s'était guère posé de questions et avait emmené l'enfant sans vraiment l'observer. À présent, réfugié chez lui, il se rendait compte de la portée de son acte et, même s'il avait un peu peur de ne pas être à la hauteur, il savait qu'il ne regretterait jamais ce que Jedediah considérerait comme un crime. Marie cligna plusieurs fois des paupières avant de parler d'une petite voix qu'Arthur trouva magnifique. « Qui es-tu ?»
Nous venons d'entendre un extrait de Best of Midsummer Murders parce que Lydie Blaiseau a trouvé que l'ambiance qu'il y avait dans cette musique correspondait assez bien à son œuvre. Qu'est-ce que vous pourriez en dire de plus sur cette musique ?
Donc c'est un extrait de la série anglaise Midsummer Murders, donc connue en France sous le nom d'Inspecteur Barnaby. Et je trouve que c'est une musique qui reflète vraiment très bien l'ambiance de mon roman.
Donc, vous avez écrit un premier roman qui vient d'être édité, La Maison de Londres, chez Le Petit Caveau. Mais, écrire un roman, comment est-ce que vous le faites, vous ?
J'ai une technique bien à moi. Donc, en fait, je pars de l'idée des personnages. Je construis leur caractère, leur apparence physique, et ensuite je cherche une trame d'histoire qui leur corresponde, mais vraiment quelque chose de très généraliste, et je commence à écrire. Ensuite, je construis l'histoire vraiment au fur et à mesure, je ne note rien, je ne fais pas de plan, je ne construis rien à l'avance.
C'est-à-dire, vous vous mettez devant votre ordinateur et vous tapez sur le clavier ?
Tout à fait, je construis l'histoire vraiment au rythme de mes doigts.
Et quand ça coince ?
Quand ça coince, j'arrête, je réfléchis et je me dis pourquoi est-ce que je n'arrive plus à avancer.
Et dans certains cas, vous reprenez en amont ce que vous avez construit parce que ça n'aboutissait à rien.
Oui, tout à fait, ça m'est arrivé de supprimer des chapitres entiers parce qu'ils ne correspondaient pas, qu'ils ne menaient nulle part, que je sentais bien que je ne pourrais pas continuer. Donc je les supprime et je recommence à partir de ce moment-là.
Vous acceptez que la suite des événements fasse qu'on arrive éventuellement à une conclusion que vous n'avez pas prévue?
Oui, évidemment. Ça peut être une fin que je n'ai pas prévue, que je n'ai pas souhaitée, d'ailleurs, même, pourquoi pas. Mais le tout, c'est que ça constitue une histoire intéressante et dotée d'une certaine originalité, bien sûr.
Mais c'est quoi l'idée d'intéressante?
Il faut que ce soit une histoire qui soit prenante pour le lecteur. S'il s'ennuie, il n'a aucun intérêt à lire le roman. Il faut donc qu'elle l'intéresse, que les personnages le touchent, le concernent, qu'ils se sentent proches du personnage. Un personnage qui n'a pas de caractère, qui n'a pas d'intérêt, déjà, il plombe l'histoire à lui tout seul.
Mais vous n'écrivez pas que des romans. Vous avez aussi préparé des nouvelles. Est-ce que c'est dans la même démarche que vous vous situez ?
Non, parce que l'écriture de la nouvelle est quelque chose de très différent. On est souvent face à une problématique de taille. Par exemple, quand on répond à un appel à texte, ce que j'ai déjà fait, on vous donne un nombre de caractères minimum, maximum, on vous impose un thème. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous êtes limité. Moi qui aime bien développer mes personnages, le fait qu'on me donne un nombre de caractères maximum me donne une barrière que je ne dois pas dépasser. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a posé pas mal de problèmes.
Et donc, vous préférez les romans?
Oui, moi, je préfère les romans. Je trouve que ça me permet de mieux m'exprimer avec la taille que cela fait.
Alors, quels sont les prochains romans?
Donc, un roman de science-fiction, Le Facteur 119, qui doit paraître aux éditions Voyel au mois de janvier, et un recueil de nouvelles qui doit paraître aux éditions du Petit Caveau, autour de Londres, et qui en fait sera un lien entre La Maison de Londres et sa suite que je compte écrire prochainement.
Là, vous nous donnez envie d'en savoir un peu plus. Autour de quoi ça tourne, ces deux romans?
Donc le roman de science-fiction tourne autour des intelligences artificielles, et donc c'est aussi un peu un questionnement face au progrès technique, au progrès technologique, ce que ça va permettre dans le futur de faire.
C'est un thème qui est à la mode actuellement.
Oui, mais j'ai essayé de le traiter toujours avec un petit peu d'humour, mais aussi comme c'est un roman à destination de la jeunesse, j'ai évité les clichés habituels ainsi que la violence qui est totalement inutile de toute manière sur un sujet comme celui-là.
Deuxième projet, autour de Londres. Alors, ça consistera en quoi ? C'est reprendre l'histoire de vos gentils vampires?
Pas tout à fait. En fait, je me suis dit que ça me permettrait de répondre à un certain nombre de questions et aussi à découvrir plus profondément certains personnages, dont les héros, bien sûr, puisque la nouvelle qui les concerne raconte tout simplement leur rencontre.
Et vous avez supprimé le méchant?
Le méchant, non, Donald Trump, donc, est toujours présent, et justement, la nouvelle qui le concerne raconte comment il est devenu vampire.
Et moins méchant?
Moins méchant, il n'est pas vraiment méchant, Donald Trump, il est juste bête.
Merci Lydie Blaiseau pour ce premier interview.
Je l'espère aussi, c'est moi qui vous remercie.